Plus important que Noël, plus important que la fin de l'année, la Saint-Sylvestre, c'est Star Wars. C'était Star Wars, puisque les choses ont changé. Les fleurs ont fané, c'était le temps d'avant. Je spoil l'épisode un petit peu, mais c'est parce que la qualité, je suis désolé, n'est plus au rendez-vous, et vous allez savoir pourquoi. On parle bien entendu en tant que spécialiste de Star Wars, on se donne même des notes avant même de commencer à parler sur notre niveau de fanatisme de Star Wars. C'est à ce point qu'on est aussi éthiquement responsable. Après, il faut le savoir, toutes les personnes que vous allez entendre parler dans cet épisode ont joué à des jeux de rôle Star Wars. Oui, nous sommes geeks et fiers de l'être, on a donc beaucoup plus de poids quand on vous parle de sabre laser. C'est bien évidemment donc de l'épisode 8 dont on va parler aujourd'hui, de Rian Johnson. On va parler également de plusieurs autres news et plusieurs autres films, notamment la magnifique bande-annonce de Garde Partagée avec Didier Bourdon. Là, j'ai l'impression de passer pas mal de temps à parler de ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous envoyer un petit commentaire sympa sur le podcast store sur iTunes avec 5 petites étoiles, mais aussi de vous abonner sur la page Facebook, le Twitter et l'Instagram. Et sachez également qu'il existe le mail si vous n'êtes pas d'accord, par exemple avec quelque chose qu'on peut dire, si vous trouvez nos propos foncièrement désobligeants concernant un réalisateur, un acteur, une actrice, une réalisatrice, quelque chose, envoyez-nous des insultes sur findeseance@gmail.com, on les lira avec plaisir. Section autopromo obligatoire, parce que cette fin d'année est très chargée. Le mercredi 27 décembre, je serai à 20h au Duplex pour la Toulouse Comedy Night pour 10 minutes de stand-up. Le vendredi 29 décembre pour 30 minutes de stand-up avec Emma dans le spectacle Presque Seul au Centre Culturel des Minimes à Toulouse. N'hésitez pas à aller sur Billets Réduc pour prendre vos places. Également, parce que mon humour est international, je passerai au Cosmic Comedy Berlin le 1er janvier à partir de 20h. Donc n'hésitez pas là aussi à prendre vos places si jamais vous êtes à Berlin et que vous voulez écouter des blagues de Wham en anglais. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes et de gros bisous, and may the force be with you.
Parce que, enfin, son ordinateur portable, parce qu'il a mis, des notes dedans de Star Wars.
Non. Oh, le fanboy, quoi.
Il a fait une dissertation en fait juste après, du coup il va nous en lire un petit extrait.
Et pour autant, j'ai pas grand-chose à dire.
C'est son manifeste, tu sais.
J'avais la gueule de bois jeudi matin.
Tu avais la gueule de bois jeudi matin. Ah. Ah, c'est vrai que tu l'as vu mercredi, toi. Ouais. Ok.
J'étais en train de finir sur une des news de Miss France 2018 qui fait du racisme silencieux à la télé devant 8 millions de personnes. T'as vu ou pas?
Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas vu.
Non, mais c'est subtil en fait. En fait, elle parle de Miss Guyane en fait qui a des beaux cheveux frisés parce qu'elle est black, tu vois. Et en fait, donc c'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui a gagné, donc qui est, tu sais, la rousse avec la peau bien blanche, tu sais.
D'accord.
Et qui parle de plein de meufs qui dit ah oui, donc on a des jolies blondes étincelante, et puis toi, en parlant en Miss Guyane, elle dit toi Miss Guyane, ben toi t'es un peu une crinière de lionne, tu vois, parce que t'es un peu une animale.
Mais il y en a marre de ces raccourcis, voilà. Tu sais, sous prétexte voilà. Que t'as un truc attrait à un africain tout de suite.
Oh, mais majestueuse comme une gazelle.
Tu es un animal quelque part.
C'est
voilà.
L'animal de la savane.
Ouais, c'est ça. Que des trucs à base du roi lion, tu sais.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ça y est, PJ a sorti son MacBook Pro. Là où il a noté genre des paragraphes. T'as mis note Star Wars 7, c'est le 8, hein, tu sais ça.
Ah oui, merde. Ah, mais ça, c'est
l'erreur.
Comment on appelle un lapsus écrit?
C'est un acte manqué, je sais
pas. C'est un acte manqué, ouais. Voilà, qui a du sens quelque part.
Oui, parce que c'est aussi moisi que...
Voilà.
Chut, pas de spoiler.
Pas de spoiler du tout. Est-ce que vous avez des news ou des bandes annonces dont
ouais,
vous voulez parler?
Vite fait.
Vas-y.
Ben, pendant que vous étiez pas là, on s'est bien marré, donc on va vous faire un petit rattrapage. Mais en fait, je racontais à Arnaud, j'avais vu la bande annonce de Garde alternée avec Didier Bourdon, en fait, dont le pitch est vite fait que Didier Bourdon, qui est un middle-aged man un peu moche et gras, qui est marié avec une femme et qui a une maîtresse qui est Sandrine Bonner. Et en fait, la femme découvre la maîtresse et au lieu de faire le truc habituel, le cataclysme dans le couple, en fait, elle décide en fait de faire un arrangement avec la maîtresse et de se partager, comme l'a justement dit Arnaud la semaine dernière, pas un homme mais Didier Bourdon, une semaine sur deux. Donc voilà, c'est un joli manifeste décomplexé pour la polygamie. Et truc assez marrant, c'est que dans la bande-annonce, il y a Sandrine Bonner en fait qui sont en train de dormir et Sandrine Bonner elle se met des rappels sur son téléphone intitulé Pip, en fait, pour faire des pips à Didier Bourdon pendant qu'il dort. Et Didier Bourdon, il dit « Oh non, mais ça suffit maintenant ça suffit !» Donc voilà, c'est scandaleux. Voilà.
Non, mais ça, c'est un réel problème.
Il y a un producteur qui a quand même validé le film en disant « Ouais, c'est deux femmes qui se partagent Didier Bourdon, c'est normal, il est sexy quand même.
» c'est Playboy, quoi. C'est élu l'homme le plus sexy par GQ Magazine, quoi, franchement.
Sandrine Bonner et qui ?
Et Valérie Bonneton, là...
Ah, ok, oui, je vois, très bien.
Réalisé par une femme, en plus. Hein.
Moi, je trouve ça bien que des films comme ça rentrent dans la culture pour que les filles, tu vois, elles sachent bien leur place, quelque part. Ah, putain, mec. Qu'elles sont là juste pour assouvir les désirs du mal. Comme ça, tu vois, tu chopes beaucoup plus facilement après dans le futur.
Ah, le mec. Je valide pas du tout ta blague sexiste, en fait. Voilà, c'est
2017. C'est pas une blague sexiste,
hein,
c'est...
Je vais de ce pas faire un tweet outré sur la phrase que vient de prononcer Areski Sugar, là.
I'm offended.
Hashtag inclusif, hashtag arrête tout de suite.
Mais le personnage de Didier Bourdon, est-ce qu'il y a quelque chose qui le rend absolument attractif dans
Il a réalisé Les Trois Frères.
Il a joué dans un film de Ridley Scott.
Le seul truc qu'il dit Didier Bourdon, c'est arrêtez de me sucer, je suis fatigué.
Il est fatigué
d'avoir deux femmes qui lui grimpent dessus. En fait, il est fatigué.
Mais qui a écrit ça? Quel est le gars qui après son cognac et son cigare et probablement ses 2-3 massages dans le cou de son assistante de la journée a écrit ça, tu vois. Quel est l'apprenti Weinstein?
Surtout qu'en vrai, dans la rue, si tu vois Didier Bourdon avec Sandrine Kiberlin, la première chose que tu te dis, c'est...
Incorrect.
Pourquoi?
Je te dis, il y a un bug dans la matrice.
Tu te dis qu'il y a quelque chose qui marche pas quelque part, tu vois.
Très bien, c'est la seule bande-annonce que tu as vue. T'as vu quoi comme bande-annonce quand t'es allé voir le film? Rien d'incroyable, rien.
Non,
qui t'a...
Il y a rien qui m'a marqué là.
Qui t'a marqué.
Vous avez vu la bande-annonce du film de Will Smith avec sur Netflix là avec
On en avait parlé déjà il y a pas mal de temps parce que mine de rien la première bande-annonce elle est sortie il y a très longtemps, mais moi je dis j'attends de voir. Est-ce que ça va être du Training Day ou est-ce que on va parler de trucs raciaux mais avec des orques, pourquoi pas?
En fait, c'est le niveau d'imagination auquel on va avoir le droit H24. Tu sais, c'est la voie que nous montre le rachat de la Fox par Disney. En fait, ça va être ce genre d'imagination.
Voilà, c'est ça dont je voulais parler parce que c'est un peu l'information de la semaine. Donc, comme l'a dit Jean-Yves, la Fox a été rachetée par Disney, mais pour des dizaines de milliards de dollars. En fait, ça a été une
60.
Transaction. Ouais, c'est ça. Hein.
Bonne affaire, franchement.
Et en fait, l'idée de Disney, c'est de essayer de concurrencer Netflix avec leur catalogue gigantesque, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ce qui fait un peu peur à partir de là, c'est que jusqu'à maintenant, Disney, c'était un poids lourd de l'industrie culturelle américaine. Et là, c'est devenu un quasi-monopole, en fait, quoi.
C'est la culture américaine.
C'est la culture
D'ailleurs,
américaine.
D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une proposition pour racheter la France.
Et pour eux, c'est le cash flow de un trimestre, tu sais, racheter la France maintenant.
Ouais.
C'est ça, il va y avoir les policiers qui vont être habillés en Mickey, t'imagines?
Bon, du coup, ils ont plus de thunes, il leur reste que 300$ pour le budget du prochain épisode Star Wars. Hein, c'est
ça. T'inquiète, il y aura des millions de gens qui vont aller le voir, et nous aussi d'ailleurs. Franchement, un Star Wars à 300$, je vais le voir. Je veux mille fois plus le voir que ce film.
Mais je pense que ça peut donner des choses beaucoup plus intéressantes que le Star Wars qu'on a vu cette semaine.
Et ça couplé à une autre news qui indirectement affecte le monde du cinéma, c'est aussi la fin de la neutralité du net. Donc t'ajoutes ça au fait qu'un monopole comme Disney pourrait dire « Ah, mais il n'y a que nous qui avons du débit, en fait. Maintenant, vous, vous n'avez plus de débit. » Donc, c'est un peu triste, en fait.
Genre, j'ai vraiment envie de paraphraser George Abitbol, là, et de dire « Monde de merde. »
Ah ouais, là, c'est chaud. Hein.
C'est clair.
Là, on en rigole, mais en fait, ça va vraiment... C'est hashtag Black Mirror, en fait, ce qui se passe là, cette semaine.
Ouais, un petit peu. Hein. Un petit peu. Et je suis désolé, mais les nouvelles vont de mal en pis, hein, puisque maintenant, on va parler de Star Wars, l'épisode 8.
Oh, mon
Star
Dieu.
Wars, épisode 8, Les Derniers Jedi, sorti le 13 décembre 2017 de Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, entre autres. Un film de science-fiction fantasy américain. Le synopsis, les héros du réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. Petit clip. C'est le synopsis le plus vague qui existe au monde, franchement. Tu pourrais prendre le même, changer le réveil de la force et tu pourrais le dire pour chaque épisode, c'est pareil. Et secrets ancestraux sur la force et de surprenantes révélations. Ok, génial. Bon.
Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel.
Qu'est-ce que vous avez pensé du film Les Derniers Jedi ? On l'a tous vu plus ou moins dès que c'est sorti hein, cette semaine. Qui l'a vu le jour même ? Est-ce que tu peux nous décrire peut-être l'ambiance PJ ? Vous l'avez vu le mercredi même ou pas du tout ?
Non, moi je l'ai vu hier.
Jeudi.
Okay.
Je l'ai vu le mercredi même. Ce qui était chouette, c'est que dans le hall du cinéma, il y avait un piano et un violoncelle.
C'est vrai ?
Et ils ont joué à peu près tous les thèmes de la saga. Bon, évidemment, les thèmes du 7, c'est pas. Il y en a certains qui sont pas terribles. Je pense au thème de Kylo Ren, par exemple, qui est pas fou. Voilà. Après, j'ai pas vu de déguisement.
C'était bien joué. Il y avait pas de fausses notes sur le.
Non, c'était bien joué. C'était agréable pour attendre la séance. Ouais.
Ah, voilà. C'était et agréable. Ça, donc, c'était une meilleure expérience que le film déjà.
Ouais, on peut dire ça.
Ok, d'accord.
Voilà, c'est à peu près tout. Après,
pas de gens déguisés, pas de
personnes
de
folie, déguisées,
pas de
il n'y avait pas ce petit
l'étincelle.
Ce petit quelque chose dans
de notre
dans
jeunesse
l'air. Voilà,
ouais, tout le monde est plus fan. C'était... maintenant de Fast and Furious, quoi,
peut-être.
Ok,
d'accord. Voilà,
bon, bah du coup, bah, maintenant que tu as pris la parole, tu vas continuer. Qu'est-ce que tu as pensé de Star Wars les derniers Jedi?
Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé que c'était un peu moins catastrophique que le 7, mais je ne le canonise pas. Donc pour moi, il ne fait pas partie de la saga.
C'est Disney qui décide ça. Disney qui te
canonise,
ouais, pas toi.
Hein. Je sais.
Tu fais pas partie.
Je suis rentré. J'étais voilà, ça m'a un peu déprimé. J'ai dormi le matin. J'avais la gueule de bois de Star Wars, quoi. Je me suis dit, j'ai attendu. J'étais content d'aller le voir. Et puis, ben, au final, c'est comme un peu comme le 7. J'étais vraiment déçu.
D'accord.
Voilà, je sais pas par où commencer. Il y a des créatures, c'est pour vendre des figurines. Je pense aux petits macareux là sur
les porgs.
Les porgs, voilà. Ça aurait pu être, des
mais
vrais personnages. Je sais pas, on aurait
après,
pu leur donner
vois,
un rôle.
Dit,
mais
ça existe depuis le retour du Jedi, quoi. Donc c'est pas ça qui est rédhibitoire, moi je pense, dans le film en fait. Mais
non, c'est vrai.
Jean-Yves, qu'est-ce que t'as pensé de Star Wars l'épisode 8 ?
Écoute, déjà moi condition optimale en fait, séance matinale, petit café, bien dans mes chaussons. Je crois qu'il y a un truc important à dire, c'est que j'aimerais parce que c'est quand même particulier Star Wars, tu vois. J'aimerais décliner en fait ma note de fanboy en fait je crois qu'il faut individuellement se noter de 0 à 10 sur comment on s'évalue fanboy de Star Wars, tu vois.
Coefficient Star Wars.
Voilà, en disant que 10 sur 10, tu vois, c'est le gars qui campe devant le théâtre, le cinéma pour voir, et puis 1 sur 10, ça serait le gars qui est passé devant Célio et qui a acheté un t-shirt Star Wars parce que c'était stylé. Donc voilà, moi je me situerais plutôt sur du, je dirais 6, 6,5, 6, 7 sur 10, tu vois. Voilà, donc je suis pas un ultra fondamentaliste, tu vois, je fais partie de la frange modérée, tu vois, des fans de Star Wars. Voilà la mise en contexte. Donc
one shot first, et il envoie un cocktail Molotov, tu sais.
Moi comme PJ, je suis toujours très content d'aller voir un film Star Wars, ça réveille toujours des trucs, des souvenirs d'ado émerveillés, donc je suis toujours très très content d'aller voir des sabres laser. Globalement, alors moi je ressens beaucoup de désamour et beaucoup de haine pour le film. Moi j'ai pas détesté le film, j'ai passé un moment relativement correct, tu vois. J'ai été plutôt diverti, j'ai adoré la scène d'intro que j'ai bien aimé la 3D sur la scène d'intro. Et puis très rapidement, voilà, j'ai été un peu saoulé par ce qui est un peu à l'image, j'imagine, de la genèse d'un film comme Star Wars, en fait, de la décision de certains personnages, où tu dis mais pourquoi ils font ça. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de d'égarements. Il y a des trucs qui sont plutôt bien vus, mais je les imagine pas assez bien placés dans l'univers Star Wars. Enfin voilà, donc c'est
inégal.
Je dirais plutôt brouillon. Ouais, brouillon inégal, mais grosso modo, j'ai pas passé un mauvais moment, en fait, je dirais. J'ai plutôt passé un moment correct, mais comme un bon McDo, en fait, une heure après, j'ai plutôt oublié ce qui m'est arrivé, quoi. Voilà.
Ok. Arnaud.
Ouais. Bon, moi j'ai vraiment passé un mauvais moment devant ce film. C'est je me suis à la fois, c'était un mélange entre de l'ennui et de l'énervement, en fait.
Et t'es combien de 0 à 10 fanboy, toi, tu dirais?
Je dirais que je suis, je sais pas, moi je me dirais genre 7, peut-être 7, 8, quelque chose comme ça. Je suis pas non plus un extrémiste, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la première trilogie. J'aime bien la prélogie aussi, voilà. Je suis désolé.
Je le dis, voilà.
Non, mais je le dis, et à chaque fois que je vois un nouveau Star Wars fait par Disney, je réévalue la prélogie. Ouais. À chaque fois que j'en vois un
tu
nouveau.
Tu le bump un peu, tu rajoutes un petit peu des.
Je le bump, ouais, je le bump. Mais je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que d'ordinaire, en fait, j'aime beaucoup le réalisateur de Star Wars 8, Rian Johnson, qui avait fait Looper, qui était vraiment un bon petit film de science-fiction, et surtout qui avait fait Brick. Qui était un petit film fauché, qui était une relecture du film noir des années 40 ou 50 avec Humphrey Bogart. C'était un film assez jouissif. Et là, j'ai rien retrouvé de tout ça dans ce film. J'ai l'impression que Rian Johnson a été complètement écrasé par la machine
Wars,
Disney.
Ouais.
Et au-delà de ça, en fait, la chose vraiment qui m'a le plus choqué, c'est j'ai l'impression que ce scénario, c'est un scénario amateur, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film fait par quelqu'un qui ne sait pas comment on écrit un film, mais vraiment, et ça m'a frappé. Et on pourra essayer de discuter pour voir d'où ça vient. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. J'aimerais qu'on rentre un petit peu en détail dans la structure pour voir où ça ne fonctionne pas. Mais ouais, mais grosso modo, j'ai trouvé que c'était du mauvais boulot, du boulot bâclé, que c'était juste pas intéressant. Je m'attache pas au personnage. Il y a certains moments dans les scènes d'action. Jean-Yves le disait dans la scène d'introduction, notamment. Il y a quelques moments comme ça sympathiques, mais qui sont tellement attachés à rien, tellement attaché à aucune émotion au niveau des personnages que non, j'ai pas réussi à rentrer dans ce film, quoi. Okay.
Pour me donner ma note de fan attitude de Star Wars, je dirais que je suis dans un 8 à peu près. Et c'est marrant parce que pour le coup, même si je suis assez fan, j'avais oublié qu'il sortait cette semaine, vraiment. Et du coup, je suis allé le voir un peu désabusé par le set. Je me suis assis en me disant, mais de toute façon, j'en ai absolument rien à branler de ce qui arrive à Rey, Finn, machin. Et la musique de Star Wars a commencé. Et j'ai fait, ah putain, ça va être génial. C'est pas vous dire, j'y peux rien, tu vois. Et vraiment, j'ai essayé d'aimer ce qui se passait. Et le début me montrait un truc que j'ai ressenti pour Rogue One, le fait d'avoir un film, des scènes et des plans d'un film et pas d'un Star Wars. Et ça, j'aime bien les choses un petit peu parfois. Je crois qu'il y a eu des petits plans caméra à l'épaule sur cette première scène où il y a des choses avec des bombardiers ou des choses comme ça. Et des choses comme ça, ça m'agrippe et ça me perd après tout de suite dans toute l'intrigue que je trouve nulle, sur laquelle je suis pas du tout d'accord. C'est pas du tout ce que ces personnages-là qu'on nous a construits depuis 6 épisodes.
C'est incohérent. Et alors, certes, vous allez me dire, il y a 1000 incohérences dans les autres Star Wars. Ben, c'est le premier où, clairement, je n'ai même pas l'onirique, où on ne me transporte pas que je vois les incohérences. C'est-à-dire que je suis bloqué pendant mon visionnage du film à me dire, c'est totalement débile. Que fait cette personne? Pourquoi elle fait pas ça? Enfin, voilà. Plein de choses que.
Mais c'est-à-dire, même au-delà de ça, j'ai l'impression de pas voir, tu sais, le projet du film.
Oui, je sais pas où est-ce que ça va non plus, en fait.
Ouais.
Faire du blé, c'est ça.
C'est-à-dire, tu vois, quand tu vois. Quand tu vois la trilogie originale, tu vois vraiment les accents mythologiques, tu vois, de la saga. Quand tu vois la prélogie, tu vois clairement qu'il a essayé de faire autre chose, que ça devient beaucoup plus une tragédie, que ça devient beaucoup plus quelque chose de plus humain finalement que l'aspect mythologique, tu vois, de la première saga. On peut d'ailleurs se poser la question si est-ce que c'était cohérent de changer à ce point entre la première et la deuxième trilogie. Bon. Et là, je vois ce film et je vois pas le projet qu'il y a
voilà.
derrière.
Voilà, et je ne sais pas d'ailleurs comment le lier non plus au 7. C'est-à-dire que par rapport au 7, je pourrais me dire, tiens, bah, peut-être qu'on veut nous parler d'éveil, de nouveaux héros, etc. Sauf que j'adhère à aucun moment et à aucun moment je vois vraiment que ce sont d'excellents héros qui ont vraiment des choses à faire et des idées derrière la tête pour le futur de la galaxie. Enfin, voilà. Pour expliquer, il y a des scènes que j'ai trouvées vraiment très cool. Et c'est ça qui va me faire dire qu'il est peut-être un peu meilleur que le 7, mais il y a des scènes que j'ai trouvées horribles. C'est-à-dire que je préfère me les bloquer de mon esprit, en fait. c'est un peu difficile à dire, c'est une note qui sera difficile à donner, mais parce que probablement, effectivement, je suis un fanboy et que dès que je vois des scènes sympas dans l'univers de Star Wars, c'est nouveau, donc ok, je signe, mais derrière, je vois des choses... Qui me disent c'est pas possible, personne n'a travaillé sur ce film.
Et alors qu'est-ce qui t'a paru la scène la plus inadmissible?
La plus inadmissible, enfin toute la fin du film c'est inadmissible quoi. Clairement, mais enfin à partir du milieu du film il y a plus de scènes qui m'ont plu en fait. Donc voilà, on va rentrer peut-être dans les détails juste après. Je vais arbitrairement donner une note de 2,5 miam, gentille note, mais 2 miam peut-être, tu vois, je sais pas.
Alors, moi, ça sera 1,7 miam.
Ouh.
Ok.
Damn, son.
Jean-Yves.
Écoute, moi, je sais pas. Moi, j'ai envie de l'aimer, tu vois. C'est pour ça, moi, je suis frustré parce que. Moi, je suis. Tu vois, c'est un peu comme quand t'es amoureux, t'aimes, mais on t'aime pas en retour, tu sais. C'est pourquoi tu m'aimes pas, quoi. Tu vois,
l'amour unilatéral du Star Wars.
C'est ça.
Le film ne m'aime pas. Je veux l'aimer. Mais il ne me donne rien.
Ouais. Du coup, je suis un peu déçu parce que, étant donné que j'ai aussi, ayant vu l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, et comme ça me spoil les trois quarts du film, je vais mettre 1,5/5. Non, je vais mettre. Non, 2. Okay. Non, c'est trop violent. Non, 2/5. C'est trop dur. 2/5.
Ok, moi je vais mettre 0.
Oh, damn, son.
Non mais voilà, en fait, objectivement, je devrais lui mettre un peu plus, mais ils m'ont saoulé, quoi. Oh là là,
ça, je comprends, parce que moi, vraiment, à la sortie, j'étais énervé. Il y a des choses qui m'ont énervé, en fait. Bon, bah écoutez, n'écoutez plus à partir de maintenant Star Wars, les derniers Jedi, on va commencer à spoiler. Je vais parler de ce que j'aime bien, parce que, bon, en termes de mémoire, je pense que ça va être rapide. moi, j'aime bien l'attaque du Dreadnought, c'est ça, au début, avec les bombardiers, les choses comme ouais. ça j'aime bien. J'aime bien la scène où la sœur d'une protagoniste d'après donc, meurt. Je trouve qu'elle est cool, cette scène.
Est-ce que t'aimes bien son médaillon?
J'adore son médaillon, parce que moi, les gens qui sont des frères et sœurs ou des jumeaux qui ont deux médaillons et qui font du kung-fu, j'adore ça. Parce que je suppose qu'ils font du kung-fu, voilà.
On l'a pas vu, mais...
En tout cas, tout ce qui est double dragon, j'achète. Les autres scènes que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimées, c'est les discussions, probablement d'ailleurs grâce à un mixage son que je trouvais excellent, les discussions entre Kylo Ren et Rey. Donc, ils discutent entre eux grâce à la force depuis très, très loin. Je trouvais que leur propos sur certaines choses et la façon dont c'était fait, c'était ultra cool et j'adorais ça. Et la voix de Kylo Ren, même sans le masque, déjà avec le masque, j'adore. Sans le masque, j'aime beaucoup la voix d'Adam Driver. Je crois qu'ils l'ont un petit peu mixoté. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout parce qu'après, on embraye directement sur tout ce que j'aime pas. Effectivement, le rajout de futures peluches à vendre pour trouver un propos végétarien. Ah oui, ça aussi, c'est le gros truc de ce film. C'est la nouvelle génération des millennials. Il faut qu'il y ait un arc où chaque personne va comprendre quelque chose. Et il faut qu'on soit inclusif. Et il faut qu'on ramène des gens de la diversité. Il faut qu'on parle des pauvres sur les mines de machin. Que Chewbacca arrête de manger de la viande et qu'il devienne... Le mec, il a des crocs de 16 cm. Il vit dans une planète jungle. Va lui dire d'arrêter de manger de la viande, quoi. Il faut que Poe Dameron... est un arc pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas être une tête brûlée. Le mec est censé être commandant dans une armée. Je suis désolé, si c'est pas ça, c'est qu'on est vraiment arrivé trop tard dans l'histoire, quoi.
Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que dès le début du film, on le présente comme un héros établi. Je tiens à rappeler que c'était un figurant glorifié quand même, dans l'épisode 7, ce mec.
Après, je veux bien croire qu'il ait eu des faits de bravoure en attendant entre les épisodes, mais il y a des choses vraiment très très bizarres. Toute la hiérarchie et le petit côté féministe où on voit plein de femmes, etc. dans l'armée des résistants, il va falloir quand même me montrer que les généraux et les amiraux, donc Laura Dern et tout ça, pourquoi elles sont jamais en uniforme, tu vois.
Est-ce que sa mutinerie n'aurait pas eu plus de sens si le personnage qui est joué donc par Laura Dern avait vraiment été un agent double à la solde de l'Empire, au lieu d'une gentille qui a juste un plan
pour
différent.
Le coup, moi j'ai plutôt bien aimé la mutinerie qui mène vers un échec. Pour le coup, c'est un autre truc que j'ai plutôt bien aimé.
D'accord.
Tu vois.
D'accord.
Je pourrais parce que c'est un peu lié à ça. En tout cas, ça amène à ça. C'est-à-dire que pour moi le plus gros problème d'écriture dans ce film, c'est que je vais d'abord devoir mettre un petit peu de contexte sur les techniques d'écriture dans le cinéma hollywoodien. Il y a en fait une technique qui est extrêmement basique, qui est utilisée depuis le tout début d'Hollywood, qui s'appelle le setup et le payoff. C'est-à-dire, c'est un truc très très simple. C'est-à-dire que pour qu'une scène ait vraiment une émotion, il faut d'abord avoir installé tous les éléments dramatiques qui vont mener à ça. Donc généralement, tu installes avant dans le film, c'est ce qu'on appelle le setup, l'installation. Tu installes un élément que ensuite tu vas retrouver plus tard dans ce qu'on appelle le payoff, le paiement, pour pouvoir avoir
le climax des émotions.
Avoir le climax de l'émotion. Et ça peut être un truc tout bête, mais par exemple, si t'as un héros en fait qui va devoir utiliser un arc pour tuer un loup affamé à un moment donné dans le film, il te faut avoir montré avant qu'il sait se servir d'un arc. Sinon, ça va pas marcher. Tu vas pas croire le moment où le type va prendre un arc pour tuer quelqu'un. Ça peut être, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est vraiment des choses comme ça. Et c'est des choses beaucoup plus émotionnelles, évidemment. Et dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des paiements et aucun setup, en fait. Pendant tout le film. Et j'ai plusieurs exemples. Alors évidemment, il y a toute l'histoire autour de Laura Dern et je vais y revenir après celui-là, parce que pour moi, la scène qui m'a le plus choqué dans le film, où vraiment j'ai failli sortir du cinéma en fait à ce moment-là, c'est à un moment donné, ils vont sur une planète casino.
Ouais.
Et je vais essayer de vous retrouver le rythme de cette scène parce que c'est ahurissant. C'est d'abord, en fait, il y a Rose, donc une nouvelle héroïne qui arrive dans cet épisode, qui dit à Finn, tu vas voir, cette planète est horrible. On arrive sur cette planète, et là, on passe 30 secondes à l'intérieur d'un casino, où on voit des petites bêtes qui s'amusent à lancer des dés, à jouer aux cartes, etc. Ça dure 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on retrouve Finn et Rose sur un balcon, et Finn dit à Rose, ben... qu'est-ce que tu m'as dit? C'est vachement bien cette planète, on s'amuse beaucoup. Suite à quoi, Rose lui dit, mais non, Finn, regarde mieux. Finn regarde littéralement juste en bas à ses pieds, grosso modo, en dessous du balcon, et il voit des enfants esclaves se faire fouetter, parce que j'imagine que ça arrive sous les balcons de n'importe qui. Et là, Finn se relève et dit à Rose, ah oui, tu as raison, c'est une planète d'esclavagistes. J'avais pas vu, tu m'as ouvert les yeux. Durée de la scène, 45 secondes. Comment tu veux que j'ai un attachement émotionnel à ce qui se passe si tout arrive en même temps comme ça? Et après, ça devient de pire en pire avec la rencontre de Benicio del Toro où c'est
bizarre. Ah, c'est très bizarre. Tout le problème de Benicio del Toro, c'est que si il s'était aussi facile que ça de rentrer dans un vaisseau impérial, il l'aurait déjà fait, la résistance. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient déjà payé un hacker pour le faire.
C'est toute l'intrigue de Benicio del Toro ne sert à rien, hein. C'est-à-dire tu peux la supprimer du film et ça ne change absolument rien à l'histoire ou à quoi que ce soit. Mais ce qui est ahurissant aussi, c'est que là, c'est, il y a aussi cette histoire de paiement et de préparation, c'est-à-dire que on a d'abord une scène qui dure à peu près 15 secondes dans la prison où Finn et Rose font comprendre qu'ils n'aiment pas Benicio del Toro. Et ensuite, à peu près 5 minutes plus tard, ils s'évadent de la planète et le seul vaisseau qu'ils trouvent, c'est un vaisseau qui est conduit par Benicio del Toro. Et on dirait qu'ils ne veulent pas rentrer, comme si ça faisait 3 films qu'ils essayaient d'éviter le contact Benicio del Toro. Alors que ça fait 5 secondes qu'ils le connaissent,
et,
le mec.
Et ça fait 5 secondes qu'ils le connaissent et c'est lui qui les a fait évader de la prison.
Fait évader. Donc, et du coup, je comprends pas bizarre, le ressentiment qu'on installe. Il n'y a pas de scène pour installer tout ça. Et ce truc, c'est aussi très très présent dans l'intrigue autour de Laura Dern. Bon, alors déjà, ils ont réussi à me faire me faire détester un film où il y a Laura Dern, et ça, c'est pas facile à la base. Mais en fait, il y a tout. T'as l'impression que ce qui se passe entre Laura Dern et Poe Dameron et Carrie Fisher, entre ces trois personnages, t'as vraiment l'impression que t'arrives à la fin d'une série télé dont t'aurais raté tous les autres épisodes. Ouais. C'est-à-dire qu'on m'installe la relation qui existe entre Carrie Fisher et Laura Dern comme si c'était vraiment une relation maître-élève très très développée, tu vois, où il y aurait eu une installation qui existait avant. Mais non, on me le balance comme ça, comme si je devais me rattacher, en fait, à une histoire qui ne m'a jamais été montrée et qui n'existe nulle part, en fait, ni dans l'épisode précédent, ni dans cet épisode, ni dans un des inter-épisodes. Et je trouve ça extrêmement bien. Et tout le film fonctionne comme ça. Tout le film me fait croire que chaque scène est un climax émotionnel. Mais comment tu veux que je rentre dedans s'il n'y a jamais eu de préparation, quoi ?
Moi, je vais être moins méchant dans certains trucs, dans le sens où je veux bien, moi, effectivement, te donner un chèque dès le début d'une scène pour connaître les relations entre tel ou tel personnage. Mais il faut qu'après, le déroulement paraisse quand même un peu naturel. Le coup de Laura Dern qui dit « Je suis désolé, il va falloir que quelqu'un reste sur le vaisseau pour le conduire. Excuse-moi, mon lave-vaisselle a un départ différé. » Donc à partir de là, d'où un vaisseau de la résistance n'a pas un départ différé, quoi. Faut arrêter de déconner. Toute la scène, effectivement, du casino. Alors c'est con parce que j'ai trouvé ça très très ultra bancal, hyper casse-gueule, et d'ailleurs ça s'est cassé la gueule. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, putain, c'est dommage de pas avoir continué à parler de ce sujet. Le fait que tous les gens dans cet endroit gagnent de l'argent parce qu'il y a la guerre et parce qu'ils vendent aussi bien à l'Empire que à la résistance. Ça, pour le coup, on s'en rend compte que 4 secondes après, quand ils sont rentrés dans le vaisseau d'un marchand d'armes, tu vois. Non, mais c'était ça le propos, c'était pas des esclaves ou des conneries comme ça, le propos.
Cet endroit, clairement,
ça,
c'est
ça,
le
c'est pas du tout traité.
C'est l'île volante de Lando Calrissian dans l'Empire contre-attaque, quoi.
C'est
ce film, de toute façon, c'est un espèce d'empilement de tropes de tous les autres Star Wars, de épisode 5, épisode 6 en fait, puisque tu vas avoir Rey qui est devant l'empereur et qui regarde la flotte se faire exterminer comme dans le Retour du Jedi. Tu as le truc de Lando Calrissian, tu vas avoir putain, j'étais sûr que ça allait arriver, c'est putain de drôle. Dromadaire mécanique qui allait encore revenir sur une planète glacée. Non mais excusez-moi le manque d'inventivité.
C'est du
quoi.
Sel. Attends, c'est du sel.
Ah, c'est du sel.
C'est pas de la neige.
Ça aurait été glacé, j'aurais compris du coup. Mais
d'ailleurs,
c'est,
ouais, il y a même pour nous dire que c'est pas de la neige, il y a même un soldat qui
ça,
passe
ça,
son
pas
doigt,
compris.
Qui goûte et qui fait.
Quel
c'est
est l'intérêt? Mais ça pouvait être de l'arsenic blanc, j'en ai rien à branler, c'est blanc,
mais
il y a du rouge en dessous, ok.
Mais c'est pour te dire, ce n'est pas de la neige.
Je m'en fous de savoir ce que c'est. À quel moment les gars ils se sont dit, non mais vraiment, il faut qu'on installe 15 secondes un mec qui goûte de la terre. Tais-toi, il y a 1000 problèmes dans ton film.
Le truc le plus marrant, qui est un peu à l'image de ce que disait Arnaud sur Benicio del Toro et l'interchangeabilité de certaines scènes, t'as aussi les prises de décision de certains personnages, et je pense notamment au truc trop marrant du changement brutal de décision de Luke Skywalker, qui après une semaine en fait est inconsolable et dit à Rey, non, je te formerai pas, et qui, parce que juste il voit Leia par R2-D2, tu sais, dit bon allez d'accord, je vais t'aider à faire ta formation.
Le mec, il a quand même fait le choix incroyable depuis des années de se couper à la force et de se couper de tous ses amis, de toute sa famille. Quelqu'un retrouve, je me serais dit déjà, il aurait mis en place un truc pour que si on le retrouve, il puisse, je sais pas, même disparaître, encore une fois, ou quelque chose comme ça. Et non, en fait, il fallait juste lui demander deux fois, lui faire un petit son
de lumière. Il y a un build-up de malade, en plus, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir trouver pour le faire changer d'avis, quoi.
De l'épisode 4, ouais. Quoi.
C'est incroyable. incroyable. C'est incroyable.
Et un coffret DVD, quoi. Un coffret DVD de ses meilleures aventures, et ça lui fait changer d'avis.
Comme, tout comme le 7, c'était une copie carbone du 4, là, celui-ci, c'est une copie carbone du 5. Il y a de l'entraînement, il y a un gros revers qui est pris par la résistance, par l'Empire, il y a une menace de partir dans le côté obscur. Et à la fin, il y a la mort d'un maître, ou en tout cas la disparition par la fonte dans la force d'un maître, et le futur ouvert des deux ennemis qui vont probablement donc se retrouver payer.
Et où tu peux même aller encore plus loin, c'est-à-dire que même dans le détail, il y a à la fin du film des révélations sur les parents de l'héroïne. Ça suit vraiment.
Non, mais encore une fois, c'est copier-coller. Alors que pour le coup, je m'attendais à ce que Rian Johnson se tire de là, parce que J.J. Abrams, pour moi, J.J. Abrams, il avait été le Bryan Singer de Superman, c'est-à-dire qu'il a fait un film qui sert à rien, mais qui paye un hommage à l'ancien film, tout comme Superman
Returns. Il fera le prochain d'ailleurs.
Rian Johnson?
Non, Abrams fera l'épisode 9.
Ah, il va faire le 9 finalement. Ok, d'accord. Ouais, je sais pas. Oui. J'espère qu'à un certain moment, quelqu'un va écrire un film, quoi. Un nouveau film, je veux dire.
Mais j'aurais un petit mot à dire sur Rian Johnson, parce que j'ai entendu tout à l'heure, en allant au ciné, j'ai entendu une interview de lui, et c'est assez marrant parce que comme Arnaud, j'étais vraiment très déçu parce que j'attendais vraiment à voir du Looper avec des sabres laser, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que l'interview de Rian Johnson, tu comprends, je l'excuse pas, mais en fait j'ai eu des clés pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est que Rian Johnson, il explique en gros plus ou moins que depuis qu'il a fait Looper, il a des propositions tout le temps pour faire des énormes productions hollywoodiennes de trucs de SF, et qu'il a toujours rejeté en fait. Il explique que quand il y a Star Wars qui arrive, on lui dit « Est-ce que tu veux faire Star Wars ?» Il dit d'abord non. Et en fait, il dit « Ben, en fait, si, je peux pas résister, quoi. » Et en fait, il explique qu'il est un peu envahi par ce truc d'enfant, en fait, où on lui donne la chance de faire Star Wars. Ouais. Et du coup, il raconte aussi que voilà, il est en train de faire son scénario, et que quand il est en train d'écrire son scénario, il y a sur son ordi, il y a marqué Luke Skywalker 2. Avec le truc écrit, on se dit putain, je suis quand même envahi par quelque chose de divin, parce que je suis quand même en train d'essayer de me demander qu'est-ce que va dire Luke Skywalker.
Ouais.
Donc en fait, voilà, c'est plutôt un espèce de mea culpa un petit peu entre les lignes pour dire ben voilà, j'y suis allé parce que j'étais comme un enfant, quoi, en fait, tu vois. Et du coup, ça explique aussi pourquoi dans des interviews il excuse les porgs, en fait. Tu sais, j'ai entendu une interview aussi où il dit mais non, mais les porgs c'est vachement bien, c'est il y a du fond, quoi, alors que
ouais, mon cul.
et donc voilà, et donc c'était intéressant parce que c'est Est-ce que au fond il y a pas ce truc particulier à Star Wars, en fait, à un peu perdre tes moyens et à peut-être dire oui à tout, tu vois. J'ai un peu eu ce sentiment là.
Ouais, enfin après les deux gars qui se sont fait virer, Chris Lord et Phil machin, tu vois, ils ont pas dit oui à tout, et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer, peut-être, tu vois. À un certain moment, il faut prendre sa responsabilité, peut-être.
Et tu vois, aussi j'aimerais revenir sur un personnage dans ce film que je trouve particulièrement mauvais, c'est justement la fameuse Rose.
Ouais.
Qui arrive, et en fait la manière dont elle est intégrée au récit, t'as vraiment l'impression qu'elle a été rajoutée au scotch à un moment donné, tu vois. Et vraiment, ça m'a donné l'impression, en fait, en sortant du film, je m'étais dit ça me fait la même impression que si je re-regardais la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et que dedans je découvrais qu'il y a un personnage qui s'appelle Alain, et il est comptable pour le Mordor, et il les suit dans leurs aventures, tu sais. C'est l'impression que me donne ce personnage, parce qu'elle est pas du tout installée. C'est-à-dire, la première fois qu'on la voit, on la voit chialer parce qu'elle a perdu sa sœur. Donc, grosso modo, elle lave les chiottes dans le garage moteur, de la République. Ouais. Et à partir de là, elle rencontre Finn. Et elle le suit dans toutes ses aventures. Et à partir de ce moment, on lui demande son avis c'était l'ingénieur en chef de toute la résistance.
Mais tu comprends, c'est très étrange, en fait. Tu sais, c'est le truc qui est constant dans les films de SF. Le mécano, c'est tout sur tout. Tu vois, enfin, et pire que ça, c'est genre, t'as même pas vraiment besoin d'un mécano, t'as besoin de quelqu'un qui traîne dans la salle des machines. Tu vois ce que je veux dire? La meuf, elle était là, à la limite, elle avait une serpillière, un aspirateur, et elle était là. Oui, on va faire une dérivation, et ça nous permettra de rentrer dans le bouclier. Tais-toi, tu ne sais rien. Sinon, tu serais en haut avec les gens du QG. Tu savais faire tout ça.
si tu la supprimes, c'est pareil. Tu pourrais ajouter un mini droïde qui vole à côté de Finn et qui dirait la même chose. Oui, cette planète est une planète casino. Merci. Merci, droïde. Oh, regarde en bas, il y a des gens qui se font taper.
Il y a un autre truc dont j'aimerais parler, c'est un petit peu ce que présage le rachat de Disney par la Fox. Il y a des tentatives d'humour à la Marvel un peu, tu sais, à des moments, et c'est assez bizarre en fait. Genre par exemple, il y a un dialogue entre Luke Skywalker et Rey, et il va lui dire tu viens d'où, et elle dit nowhere, et alors il dit mais non, mais c'est où, et elle lui donne le nom de la planète et dit ah ouais, c'est pretty much nowhere, tu vois, et il y a des blancs.
Et je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ça ressemble bizarre, vachement à une vanne de Iron Man un peu.
C'est ou de vraiment le Avengers low level, tu vois. Et ça m'a donné un peu l'impression que malheureusement on va de la même façon que qu'on va scotcher des personnages, on va aussi scotcher des blagues en fait. On va scotcher des blagues et ça va devenir un espèce de patchwork. Et ça me fait un peu peur en fait.
Dans le même genre, il y a la blague du brin d'herbe. Il lui demande de se concentrer. Il lui chatouille la main avec
très enfantin
avec blague, une
ça.
Plante ou avec une herbe. Et Rey est persuadé qu'elle sent ressent c'est la force.
C'est trop bizarre ça.
C'est tellement enfantin. C'était très bizarre en fait comme blague arrivée là. Et c'est ce que tu dis, on dirait en fait que ces films-là, maintenant, c'est devenu quelqu'un qui fait une pizza et qui regarde la garniture et qui se dit « Non, il faut que je mette un peu plus de ça ici et un peu plus de ça ici pour que tout soit égal, tu vois ?» Mais qui pense pas à l'idée de la pizza finale. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois cette analogie ?
C'est une très mauvaise nouvelle pour nous, parce qu'en fait, je crois en fait il faut acter que Kathleen Turner, elle en a rien à foutre des fanboys parce qu'elle sait Kathleen Kennedy, elle en a rien à foutre parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, les fanboys, et elle a raison, iront voir le film en fait. Donc, les films pour les fanboys, c'est normal. Enfin, je
ce qui aussi est très bizarre, et on en avait déjà parlé dans Justice League, mais en fait, la surprésence de l'intertextualité qui commence à devenir ahurissante dans les blockbusters hollywoodiens. Et ici je tiens juste à essayer de vous mettre à la place de quelqu'un qui découvre ce film. À la limite il a vu le 7, à la limite il a vu Rogue One, mais il a pas vu les autres. À un moment donné dans le film, Luke Skywalker est sur son île et il y a le fantôme d'une crevette verte qui arrive pour l'aider à brûler le temple des Jedi, et ça sort de nulle part. Mais vraiment, c'est Yoda a pas du tout été installé dans cette trilogie, et on me montre ce rapport comme si c'était encore une fois, tu vois, comme si c'était quelque chose d'installé, d'établi, et je sais pas si tu peux faire ça à ce point.
Le problème
en fait,
c'est que est-ce que Yoda, tout comme d'ailleurs les super-héros dont on a parlé, il y a plus de discussions sur Justice League, mais est-ce que Yoda n'est pas devenu une icône telle que c'est comme si je sais pas, on te présentait
évident. En fait, je sais pas comment te dire. Ça veut dire que on va vers des films pour lesquels, pour pouvoir les connaître, il faut déjà avoir une connaissance de l'univers dans lequel ils existent. Alors peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut faire des films intéressants, mais je trouve ça assez étrange. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Je sais pas si je l'accepte pas parce que je suis un vieux con et que moi j'aime bien qu'on me raconte les histoires du début jusqu'à la fin, mais le fait d'avoir toutes ces pièces manquantes et de devoir moi-même en fait les rassembler, aller chercher sur internet pour voir quels ont été le passé des personnages dans machin, dans tout ça, et je trouve que ça fait beaucoup dans des films, et que ça amène des films comme celui-là où j'ai l'impression qu'on me met les paiements sans faire justement le setup, parce que dans l'idée, ben le drame est déjà installé, parce que vous les connaissez déjà, parce que tu vois ce que
je veux dire.
J'ai l'impression que c'est cette attitude.
Mais
ça...
je dirais que c'est une attitude prétentieuse pour Star Wars, mais je trouve valable parce qu'en fait c'est un niveau de pop culture tel que tout le monde connaît, alors que c'est mille fois plus discutable, comme je disais, dans Justice League, voire même incorrect à faire, parce que dans Justice League, on recrée des personnages. Et du coup, tant que tu dis pas comment ils fonctionnent, ces personnages, on peut pas le savoir. Alors que Yoda, c'est le même, par contre, qu'il y a dans les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'ailleurs.
Mais tu vois, c'est la même chose quand on disait que Luke Skywalker change d'avis parce qu'il voit un extrait vidéo de l'épisode 4,
oui.
Tu vois. C'est, il faut vraiment comprendre que ça renvoie à toute une saga. Et que surtout, c'est pas installé, c'est-à-dire que cette scène avec Yoda, elle a aucune émotion, parce que le rapport, en tout cas, qu'entretient Luke Skywalker aujourd'hui, de 30 ans après ce qui s'est passé dans ses anciennes aventures, j'arrive pas à me rattacher à ça, c'est-à-dire qu'on m'a jamais installé qu'il avait une espèce de nostalgie pour les vieux maîtres, tu vois, dans cette
c'est vrai. De toute façon, tout le passage sur la planète de Bretagne, là, là où ils font l'entraînement et tout ça.
Ils mangent des galettes.
T'avais les vieilles sœurs, je pense, qui faisaient des crêpes ou des trucs comme ça. Mais
parce que oui.
Tout ce passage là, j'ai encore une fois trouvé ça ultra bancal et voilà, c'est la même chose que les passages du casino, c'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas ce que dit Luke en fait. Je ne sais pas pourquoi il ne lui dit pas non. Parce que j'ai créé un monstre, en fait. Tu vois, vraiment. Et qui rentre vraiment dans une vraie discussion. Et c'est très marrant parce que Rey, à un moment, j'ai noté les dialogues, elle ne répond pas à ce que le mec lui dit. Elle lui dit, non, je ne partirai pas d'ici sans vous. Tu n'as donc pas écouté toutes les phrases qu'il vient de te dire, en fait. Et du coup, il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est juste des gens qui exposent leur motivation chacun de leur côté. Et parce qu'il faut faire, au bout d'un moment, avancer l'intrigue, on dit, bon, l'un des deux va changer d'avis.
Mais encore une fois, on ressent le côté artificiel, parce qu'encore une fois, tu vois, Jean-Yves parlait du fait que la planète Casino, c'était Bespin avec Lando Calrissian. Là aussi, la Bretagne,
c'est Dagobah. Oui, bien sûr, c'est Dagobah.
Et en fait, c'est ça, c'est que en fait, il y a pas de nécessité à raconter ça. C'est juste, on se calque sur une ancienne structure et puis on colle plus ou moins bien les personnages qu'on a, quoi. Mmh. Et puis,
je trouve ça vraiment très bizarre. Enfin, on va repartir sur l'intrigue générale pour vraiment parler de ce qui se passe là. Il ne reste que 15 personnes dans la résistance. Ah d'ailleurs, au fait, j'avais dit que probablement dans le 8 nous expliquerait qu'est-ce que ça veut dire le nouvel ordre et la République et la résistance. Comment ça se fait qu'on n'appelle pas la résistance la République ou la nouvelle République, etc. Aucune explication de la politique dans le monde. Dans la galaxie. Je sais pas ce qui s'est passé pour que d'un coup, de nouveau, il y ait un nouvel empire en fait. Je sais pas quel territoire ont chacun. Il faut m'en dire plus, quoi. Parce que si, au final, il ne reste que 15 personnes qui sont de la résistance et qu'en plus, ils ont même pas eu de backup quand ils ont envoyé des messages, à un certain moment, est-ce que vous êtes pas vraiment des terroristes? Est-ce que vous faites pas juste chier tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça se trouve, tous les autres, genre, reviens toujours à ce truc de nouvel ordre, là. On m'a pas dit qu'ils étaient méchants avec les gens, hein. Bon, on m'a jamais parlé de racisme ou de gens qui sont tués par le premier ordre comme si c'était des nazis. Si ça se trouve, c'est juste des gendarmes très forts. Tu vois? C'est tout. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais. On m'a pas expliqué.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai que ça, c'est ahurissant, quoi. Cette absence absolue d'essayer d'établir le background de cette histoire, quoi. C'est...
Moi, je voudrais quand même saluer l'importance du capitaine Phasma avec sa belle armure chromée. Qui est vraiment.
Encore une fois, c'est
un personnage clé dans l'intrigue.
On me l'installe vraiment comme un aboutissement émotionnel pour Finn qui se rebelle contre celle en fait, qui le dirigeait quand il était soldat de l'Empire. Mais je veux dire, cette scène en soi, elle fait qu'une minute et il n'y a aucun rappel pendant tout le film. Et Phasma n'existait même pas dans l'épisode précédent. Elle était là 30 secondes, alors... tu vois. Et je connais son nom juste parce que j'ai lu des trucs sur Internet, en fait. C'est ouf, quoi.
Et en fait, cette scène, elle était géniale parce que sur le moment, je me suis dit, ah, enfin, il va y avoir probablement un payoff parce qu'il va se venger de comment il a été maltraité pendant probablement tout son entraînement, etc. Et je suis en train de me dire, ah, mais en fait, tout ça, c'est des trucs que tu t'es inventé dans ta tête. Tu vois, c'était genre, c'est comme si c'était une scène do it yourself. Tu fais genre, non, mais j'écris pas le scénario, mais par des allusions, tu vas faire un film qui est vraiment meilleur dans ta tête. Non, en fait, je n'ai pas envie de voir quelqu'un d'argenté sous prétexte que j'ai vu des photoshoots avec Brienne de Torf sur Facebook ou sur Instagram. Non, je m'en fous en fait de cette personne-là.
Ils sont tellement riches d'ailleurs qu'ils montent pas sa gueule, parce que moi j'aurais bien aimé la voir, parce qu'ils prennent du coup, tu dis Brienne de Game of Thrones, et en fait, c'est vraiment à l'image de cette opulence en fait. On a tellement de fric que non, mais et puis tu sais, à un moment donné dans la réunion, le gars dit, ah mais non, on a pris la meuf de Game of Thrones pour montrer une espèce d'héroïne un peu forte, on va pas montrer sa gueule. Non, mais on s'en fout en fait, c'est pas grave, y a pas le temps, on a pas le temps, faut que ça sorte.
Comme de la même manière où quand ils ont un problème et qu'ils veulent pénétrer en fait les défenses de l'Empire, ils appellent Yodette, là, la petite
fille. Oh là là.
C'est qui ça?
Dans l'épisode 7, et cette scène est ahurissante, quoi.
C'est ridicule.
Parce que à ce moment-là, en fait, on voit une petite vidéo YouTube où elle est en train de jouer à Counter-Strike, en fait. Et où elle leur explique qu'il faut que vous alliez sur une planète casino et que vous parliez avec un mec qui a une fleur sur sa veste. Ok.
Et ce gars, il est toujours là-bas. Genre, tu vois, c'est un acteur.
Il est toujours là-bas
général,
et,
toujours...
et il est joué par Justin Theroux, quoi.
Oui, c'est dommage.
Quand je l'ai vu,
ah ouais,
arrivé,
en plus.
Oui. Fan, je me suis dit,
encore une fois, on a trop de thunes, ils sont comme ça, tu sais, avec les biftons. Ouais.
Les mecs mettent un figurant derrière. Et il y a des choses qui m'ont manqué parce qu'il y a des choses qui auraient pu être très intelligentes à faire. C'était par exemple quand ils sont. J'aime bien le concept d'être poursuivi par un autre vaisseau et l'impossibilité de jumper et d'être toujours à portée de canon ou des choses
c'est
comme ça.
Battle ouais, Star
c'est Battlestar Galactica.
Exactement.
Exactement.
Et moi, j'aurais trouvé ça génial de voir les gens dans les autres vaisseaux. Et à un moment, on voit vite fait des hologrammes lorsque Laura Dern parle à toute la flotte. Et j'aurais aimé voir des vidéos dans des autres vaisseaux, etc., voir une espèce de cohésion dans toute la résistance, voir à quel point c'est important et c'est chiant d'évacuer un vaisseau pour aller dans le vaisseau mère, etc., etc. Et non, en fait, on voit jamais ça. Tout ce qui compte, c'est juste la salle de pilotage d'un seul vaisseau et c'est tout. Et du coup, je ressens au rien du tout pour la résistance, en fait. Mmh. Et surtout, il n'en reste que 15, donc je sais pas. Ça veut dire qu'il y a probablement 3000 morts, 4000 morts. Et que, comme d'habitude, je suis censé m'épousseter le pull, quoi. Voilà.
Il y a trop de désirs et de désirs contradictoires. En fait, l'intrigue de ce film, ça pue la writer's room, donc la salle dans laquelle ils ont réuni 20 scénaristes. Chacun a pitché des idées. Ils se sont dit, ouais, on va tout mettre. On va tout mettre dans le même film.
Trop de garniture tue la pizza.
Mais oui, c'est ça, encore la pizza. Ils ont mis trop de pepperoni, quoi.
C'est une pizza hawaïenne, tu sais, c'est ananas, fromage, jambon, olive, thon, saumon, tu vois, il y a tout en fait.
Sushi, burger,
la complète.
Est-ce qu'on peut parler vite fait de Luke Skywalker qui est, quand il décide de s'ouvrir à la force, le mec est assez fort pour projeter une image de lui à des centaines de personnes.
Ça, c'est cool, moi j'ai bien aimé.
Ça, c'est génial, mais en fait, il meurt juste après. Non, tu peux pas montrer un gars.
En plus, j'adore parce qu'il fait genre, j'ai évité la mort grâce à mes pouvoirs de Jedi.
C'est ça.
Et il meurt quand même.
Il est trop marrant. Mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, quitte à mourir, fallait y aller. Sors ton X-Wing, vas-y vraiment, va mourir. Et encore, je trouvais ça génial.
Non, mais il a coulé son X-Wing, il peut pas, c'est fils.
Mais n'importe quoi. Genre sur Dagobah, il était pas sous l'eau peut-être, l'X-Wing.
Ah si, c'est vrai.
Et il était dans la boue même sur Dagobah.
C'est vrai.
Non mais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois leur idée de non, on peut pas tuer Luke parce qu'on a déjà tué Anne de la même manière. Mais en fait, ils font exactement la même chose, mais différemment. Même je trouve ça débile. C'est-à-dire que si le gars réussit une prouesse comme ça, c'est que il veut vivre pour aider encore plus. Si c'était juste pour faire gagner du temps aux autres pendant que 15 personnes sortaient derrière.
C'est pour qu'il ait la même, c'est pour qu'il ait la même mort qu'Obi-Wan, parce que comme Jean-Yves disait tout à l'heure
oui,
sur
voilà,
le fait que tout ressemble à l'Empire contre-attaque notamment, mais là c'est pareil, c'est encore un trope de l'épisode 4.
Ouais, mais voilà. Là pour le coup, on a vraiment besoin de Luke Skywalker. À la limite, on n'avait pas plus vraiment besoin d'Obi-Wan ou je sais pas. Là, on en a vraiment besoin de Luke Skywalker. Donc franchement, si dans le 9, il va y avoir un maître Jedi inconnu qui va enseigner des choses à Rey, là on n'en peut plus.
On peut parler du fait que Rey manie moins bien la force dans cet épisode alors qu'elle a eu un entraînement que dans l'épisode précédent alors qu'elle avait jamais entendu parler de la force de sa vie aussi.
Ouais, j'aurais aimé des commentaires sur comme quoi elle est trop vieille pour qu'il... alors que lui-même était vieux, tu vois, ça aurait été drôle.
Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre le général Hux et Kylo Ren?
T'avais pas posé exactement la même question pour le 7 ?
Peut-être.
Je sais pas. J'ai du mal à croire que parce que le Snoke meurt, on donne les clés de tout un empire à un gosse de 22 ans, tu vois.
Mais surtout que Nox, est-ce qu'on peut parler de Snoke comme le pire méchant de toute la saga, quoi. C'est-à-dire présente 2 minutes et se fait tuer il se fait tuer par un tour de magie du niveau de regard de j'ai pris ton nez, quoi.
Ce qui est possible d'ailleurs qu'il ait pris son nez. Mais
oui.
À quel moment par contre il dit pas à Hux j'ai tué Snoke? C'est comme ça que ça marche les sites normalement. Les sites, ça marche, j'ai tué mon maître, donc je suis plus fort, donc si tu veux pas mourir, tu te tais. Alors que là, il remet ça à quelqu'un d'autre, genre quelqu'un était plus fort que moi. Rey a tué Snoke. Ben non, tu passes pour un gros nul du coup. Et je vois pas pourquoi du coup tu serais le chef de l'Empire.
Tous les deux là, on dirait vraiment deux gamins de 6 ans qui se disputent leur jouet quoi. Leur figurine, c'est... Tu te dis, mais
oui, mais parce qu'il n'y a pas de projet politique en fait.
Et c'est ça.
Qui est installé dans ce film. Donc tu sais pas pourquoi ils se battent en fait. Les
et
mecs.
Tu vois pas l'état-major non plus dans le 4, dans le 4 et le 5. Tu voyais l'état-major, tu voyais que c'était toute une machinerie quand même, l'Empire. Là, tu vois que deux personnes, et donc quoi, ça veut dire que tout le monde va au bien à ces deux personnes. Bah, je sais pas, mais si moi je suis un troufion de base et qu'on me dit, ah ben non, maintenant c'est un mec de 22 ans ou quoi, ouais, je crois qu'il peut faire bouger des objets. Tu fais, mais je vais pas risquer ma vie pour ça, c'est pas possible. Moi, par contre, le truc que j'ai trouvé bien, c'était le Skywalker Kylo Ren, c'est-à-dire le petit flashback de
le
maître voulait
ça,
tuer l'élève parce qu'il avait peur. Je trouve que quand il a rapidement raconté ça, la honte qu'il a eue ou des choses comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Moi aussi. C'est la seule caractérisation du personnage de Luke qui m'a intéressé.
À la limite, la révélation qu'il allait avoir, c'était ça plutôt dans ce film. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant, la révélation du Rey. Rey ne vient de personne. Tout le monde était là sur les forums à s'exciter. Est-ce que c'est la fille de machin? Est-ce que c'est la réincarnation de la Force, etc. Et qu'en fait, ils lui disent... Alors après, c'est balayé peut-être un peu trop vite, qu'ils lui disent « Non mais meuf, t'es juste une fille de ferrailleur. » Tu n'es rien ni personne. J'avais quelque chose à faire. Je pense de plus là-dessus.
Je pense qu'il lui a menti et qu'il y aura une révélation à la noix pendant l'épisode 9.
Ah bah si c'est ça, c'est nul.
C'est marrant parce que la performance de Adam Driver pour Kylo Ren, j'ai l'impression qu'il s'en fout en fait, qu'il en a marre en fait de jouer Kylo Ren.
Ça va bien au personnage.
Et du coup, c'est un peu. J'ai suivi un peu la tournée de promo et je l'ai vu dans plusieurs talk shows où tu vois qu'il enchaîne les talk shows américains pour venir parler de Kylo Ren et il est saoulé le mec, il est saoulé genre... Et c'est marrant parce que quand tu regardes un petit peu le calendrier des films qu'il a fait, on imagine que depuis qu'il a fait donc l'épisode 7, donc ça remonte à 2 ans, il a entre-temps fait pas mal de bons films, il a eu pas mal de bons rôles en fait. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois que moi ce que j'ai l'impression, c'est que quand il fait ses interviews, qu'il regrette un peu de s'être embarqué à faire Kylo Ren en fait, parce que il est empêtré dans un truc et il s'en fout en fait quand il est dans les interviews, il en a rien à foutre en fait de Kylo Ren et on le ressent un petit peu dans certaines scènes, j'ai l'impression, de l'épisode 8 où il est là genre ouais mais je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais mais je sais pas en fait. Je sais pas.
Mais surtout que la plupart de sa carrière à côté, c'est plutôt des films indépendants, tu vois, ou des petits où j'ai l'impression que ce qu'il veut faire, c'est plutôt ça. Alors c'est vrai c'est que ça. Là il est empêtré dans autre chose.
Alors, est-ce que c'est pas l'effet comme Rian Johnson, c'est-à-dire que en fait tu peux pas dire non parce que probablement que lui aussi il était fan quand il était jeune, etc. Sauf qu'au final il se retrouve à tourner dans un truc et il regarde le produit final, il se dit ah mais en fait mon personnage n'existe pas ou il existe via deux dialogues et tu vois on n'a pas du tout de personne qui avec de la chair dessus.
Est-ce que vous pensez que Luke entretient une relation un peu intime avec les bonnes sœurs reptiles là qui gardent les secrets des Jedi ou... Parce que je veux dire Yoda il avait quand même eu le bon goût de s'exiler seul et de vivre son exil seul.
J'avoue
là,
alors
c'est payé des vacances au pays des bonnes sœurs.
Ah ouais, Luke par contre, il se permet d'avoir des gens qui lui lavent son linge et tout ça et comme par hasard, c'est des meufs, tu vois.
Ah mais il est
il a des esclaves.
Il est dans un bed and breakfast all inclusive en Bretagne, ça c'est clair, il se fait plaisir, il a trouvé ça sur
la formule caramel beurre salé à volonté.
J'aime bien sa façon de pêcher par contre. J'aime beaucoup. L'espèce de lance énorme, ça c'était cool.
Est-ce que t'aimes bien sa façon de traire les éléphants de mer?
J'aime beaucoup.
T'aimes beaucoup?
J'aime beaucoup. Et ça aussi, j'ai pas compris le regard gêné, soi-disant, de Rey et cet éléphant de mer. Je veux dire, ils vont essayer de briser, soi-disant, des tabous en nous mettant des trucs dans Star Wars, en mettant plus d'inclusion de personnages venant de diverses ethnies, etc. Et derrière, ils vont nous montrer par contre que c'est gênant. Une vache qui allaite, quoi. Un certain moment, il faut arrêter, quoi. Non, mais c'est vrai, il méritait de mourir, quoi. Et ça, le problème de Disney, c'est que Disney, comme tu dis, ils vont créer la culture, là, en fait. Tu vois, c'est pas genre Jeanne Monopole, ils vont te dire sur quel domaine tu devrais avoir honte, quel domaine tu devrais être comme ceci, comme cela. Mmh. Voilà. Et toute cette nouvelle génération de mini-porg d'humains, là, ils vont suivre ça.
Et les chiens de cristaux, ils vous ont plu, les chiens de cristaux?
C'est joli. Ouais.
J'aimerais prendre 2 minutes pour qu'on se rappelle aussi l'évolution de l'entraînement de Luke sur Dagobah avec Yoda dans l'épisode 5, dans l'Empire contre-attaque, où en fait c'était une succession d'échecs, où on le voyait échouer à quelque chose, échouer à autre chose, échouer, jusqu'à partir alors que son entraînement n'était pas fini pour nous montrer qu'il n'était pas encore prêt à affronter Dark Vador et que c'est pour ça que ça se soldait par un échec. Et ici, tout ça est concentré à une scène de montage YouTube. C'est-à-dire elle est assise en tailleur sur une montagne et là en fait on a des vidéos choupies qu'on nous montre vraiment ça fait montage amateur de YouTube et on me dit son entraînement c'est ça.
Ouais.
Mais en fait encore une fois il y a un problème de temps. Moi je veux le temps de l'avoir échoué, je veux le temps de enfin tu vois ce que je veux dire.
Alors que par contre le thème de l'échec est abordé justement par Yoda et je trouvais ça très très bien par contre pour le coup que ce soit abordé mais c'est vrai que c'était pas dans les faits d'ailleurs petit clin d'œil je pense à Conan quand elle était sur la corniche en train de faire des choses sauf qu'en fait elle le fait toute seule d'ailleurs hein, entre parenthèses là Luke ne lui apprend rien du tout.
Il y a un truc super intéressant qui aurait pu être exploité mais qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire que quand on avait la première trilogie, on voyait Luke qui était l'élève de Yoda, et donc on avait cette figure de Yoda comme maître absolu qui avait compris toutes les arcanes de la Force, qui était arrivé à son apogée, et là on nous refait ça un petit peu, mais tout d'un coup en fait on nous montre cette scène, tu vois, avec Yoda, et on me dit ah tiens Luke doute, c'est-à-dire Luke a beau être un maître, en fait, il a encore des choses à apprendre, il a encore des choses qui ne sont pas abouties. Je trouve que ça aurait été super intéressant parce que ça fait relire même le comportement de Yoda et se dire, en fait, lui aussi, peut-être, avait encore des doutes à la fin de sa vie. Et justement, le fait de faire une nouvelle trilogie sur quelque chose et de voir, en fait, les personnages changer de rôle d'une trilogie à l'autre, c'est-à-dire Luke qui devient Yoda, il y avait un truc super intéressant à faire sur ça, et encore une fois, ils sont passés à côté, quoi.
Tu pouvais faire le truc de, mais en fait, les parents ne savaient pas quoi faire non plus, en fait. Tu vois, te rendre compte en changeant de génération, en fait, par lesquelles tu passes pour donner ton message.
J'ai bien aimé les pilotes, ils ont gardé cette espèce de thème de la première trilogie où dans la rébellion, il y a des pilotes un peu vieux et gras, tu sais. Il y a un moment il y a un pilote, il s'appelle Jean-Luc DRH, tu sais, il a un jabot comme ça. il y a de la mixité physique, en fait, tu sais, ils sont toujours un peu gros les pilotes.
Par contre, ils mettent tous, mais bon.
C'est ça.
Il y a ça, j'ai bien aimé le moment Terrence Malick où elle apprend ce que c'est la Force et elle voit des vidéos de vagues, d'herbes qui poussent, etc.
Ah, mais c'est la vidéo YouTube là dont je parlais là.
Ah, mais c'est ça dont tu parles. Ah, ok. Moi j'aime bien ça. Parce que je me suis dit, ça n'a rien à voir.
Le gars il t'écoute pas du tout en fait.
Il écoute pas.
Non, moi j'ai cru que tu parlais de son entraînement physique. Pas spirituel. Parce que là, oui, j'avoue que l'entraînement spirituel, voilà, bah, c'est ça la Force. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? C'est pas parce que tu sais que...
Ah, c'est la formation de Jedi la plus courte de l'histoire.
Mais surtout, elle n'a... Enfin, je sais pas en quoi elle est plus forte, entre parenthèses.
Non, mais...
Mais elle est moins forte que dans l'épisode précédent, c'est ça qui est ouf, en fait.
Non, mais attends, après, genre, à la fin, elle déplace des rochers, d'accord. Enfin, je veux dire, mais tous les trucs que tu sais pas, et en plus l'autre, il s'est suicidé... bonne chance, quoi. Mais bon, comme de toute façon elle va combattre quelqu'un qui ne sait rien non plus de la Force, ça va aller.
Un duel d'incompétents.
Non, mais c'est vrai aussi. L'autre gars, il a envoyé des éclairs, il a arrêté d'envoyer des éclairs. À un moment, il doit se battre contre 800 gardes impériaux. Excuse-moi, balance des éclairs entre la maison. C'est 1000 fois plus rapide.
Et comment il a fait pour tromper Snoke quand il l'a tué d'ailleurs, Kylo Ren? On sait pas en fait. Hein.
Bah, il a lu un holocron qui lui a donné ses infos, mais ça tu le sais pas, mais il fallait le deviner. Moi, en tout cas, dans une scène que je me suis fabriquée dans ma tête, c'était ça.
Alors qu'on t'a fait accepter pendant 2 minutes qu'il était plus puissant que l'empereur dans Le Retour du Jedi, quoi. C'est-à-dire que en 2 minutes, tu te dis, ce gars est surpuissant, il est intouchable, quoi. Et il y a un vieux coup de crotte donné, le gars, il s'est couché en deux, je sais pas pourquoi, quoi.
Non, pour le coup, il était charismatique, il était, tu sais, il est d'une race extrêmement grande, finalement, etc. Tu te dis, mais putain, j'ai hâte de savoir d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il veut faire. Il a probablement un evil dessin derrière et tout ça, mais non, en fait.
On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, 4 milliards de dollars, mec, on n'a pas le temps, faut que ça aille vite, tu comprends?
Faut que ça aille vite. Qui s'est dit, le fait que Kylo Ren soit le grand méchant est une meilleure idée? Je sais pas du tout qui s'est dit ça, franchement.
En fait, c'est le truc, et encore une fois, on en revient à ce truc de temps, c'est-à-dire sur ces deux trilogies, George Lucas, il prenait bien soin, si tu veux, de jauger son évolution et de pas tout donner dans un seul épisode. C'est-à-dire que l'aboutissement se faisait petit à petit. Chaque film était une phase, en fait, de l'évolution de son personnage. L'arc était complet sur un film, mais si tu veux avoir l'arc complet du personnage, il fallait aller sur les trois films. Et ici, j'ai l'impression qu'à chaque film qui sort, il faut qu'il y ait l'arc complet de tous les personnages sur le film en entier qui recommence dans l'épisode d'après, quoi. Et c'est pas bien. Voilà.
Ouais. Je crois qu'on a tout dit. Finalement, vraiment, les scènes que j'aime bien, c'est vrai que ça se compte sur les doigts de la main. Là, autant.
De la main d'un amputé, hein.
Oh.
Le burn sur Disney.
C'est parce que Mickey, il a que 3 doigts à chaque mec, en fait. C'est
autant à la fin du 7, autant à la fin du 7, j'avais quand même envie de voir le 8 parce que j'avais l'espoir que justement Rian Johnson puisse redresser la barre.
Et que le personnage de Luke amène vraiment quelque chose.
Oui, c'est vrai.
Ce qui n'est
aussi, ouais.
Pas le cas, malheureusement.
Là, je trouve aussi qu'ils sont un peu salis, je trouve, Luke et Leia déjà.
Oui, tout à fait.
Tout à fait, hein, voilà, on peut dire ça. Je trouve ça dommage de ne pas avoir montré d'ailleurs les autres Jedi que Kylo Ren a emporté avec lui, les chevaliers de je sais pas quoi là. Tu sais, il s'était formé un band un peu, un groupe de musique un peu. Il faisait de l'emo metal, je pense. Sauf qu'on les voit jamais, je sais pas pourquoi.
D'ailleurs, comment vont-ils faire mourir la princesse Leia maintenant?
J'en sais rien. Ils vont commencer par un vaisseau qui explose et ils vont faire oh là là, il y avait la princesse Leia dedans, quel dommage. Et
ou alors ils vont la refaire à l'image de synthèse dégueulasse de scène pour la.
Ah ouais, ça, c'est le problème, c'est que c'est ça.
Ça va être ça, sûrement. Ouais, c'est sûr.
Non, mais moi qui m'attendais à la mort de Leia pendant tout le truc en me disant vous allez clore le truc en lui donnant une belle mort, tu vois. Non. Donc j'espère qu'ils ont tourné des choses avec elle vraiment.
Ils ont peut-être tourné des trucs pour le 9, hein, parce que c'est tellement.
J'espère vraiment qu'ils ont fait ça parce que c'est vrai que si c'est pour voir de la 3D, ça va être horrible, moi, je trouve. Bref, ouais, je sais pas. Comme d'habitude, j'irai voir le 9, mais je me rappellerai que il est sorti lors de sa sortie et c'est tout. Ce sera dans 2 ans, par contre. C'est vrai que l'année prochaine, ce sera Han Solo d'abord.
Par Ron Howard.
Ouais, génial. Ron Howard, le mercenaire des films où on lui dit tiens, tu vas faire un nouveau Dan Brown. Il fait ouais, bien sûr.
Et franchement, me dire tiens, on va aller voir un Star Wars fait par Ron Howard, ça me donne la même impression que si on me disait hey, on part en vacances en Sologne.
Center Park.
Mais il y a quand même le concept d'aller en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Qui est bien. Qui peut être bien, c'est-à-dire que ça peut être plein de promesses. Et derrière, tu.
Voilà. Bah, c'est plein de promesses déçues, quelque part.
Ouais. Je sais pas si je veux aller le revoir. J'ai envie qu'on me fasse un petit pot pourri des bonnes scènes. Et c'est tout.
Un montage de 10 minutes à peu près.
Ouais. On demandera à Topher Grace. J'ai lu que Topher Grace avait présenté un remontage de 1h25 de l'épisode 1, 2, 3. Là, je pense qu'il pourra refaire un remontage des épisodes 7, 8, 9. En 20 minutes. Et s'il rajoute des scènes de Rogue One aussi. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine ou ces derniers temps dont vous voulez parler?
Alors moi j'ai vu des trucs, j'ai des choses à dire. Je vais commencer d'abord par un film Direct to VOD qui est un film de 2017 sorti aux États-Unis sous le nom de Unforgettable, inoubliable, mais qui a été traduit en français par Rival avec Catherine Heigl et Rosario Dawson, qui est un superbe film, un superbe nanar du samedi soir à voir entre amis. Parce que pourquoi? Parce que c'est le cauchemar féministe 2017 à la sauce Trump. Donc vite fait, je plante le décor. Donc en fait, ça commence Rosario Dawson, superbe femme. Quitte son boulot, en fait, elle a un superbe boulot dans une start-up, et elle quitte son boulot pour aller se poser avec son mari, en fait, mais se poser, c'est en fait une façon assez subtile pour dire qu'elle va faire la housewife, en fait, elle va se mettre femme au foyer, parce qu'en fait, elle se met avec un gars, voilà, qui est un gros douchebag, en fait. Il faut visualiser le douchebag de base, quoi, c'est-à-dire un genre de... Il fait de la finance, tu vois, c'est-à-dire que...
C'est le gars. Je suis trop obligé de monter ça.
C'est le gars qui.
Fat beep.
C'est le gars. Tu sais, c'est le gars que tu vas croiser aux échéances sociales un peu et tu l'aimais pas. Tu sais, il te dit oui. En fait, j'avais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai monté ma brasserie. En fait, c'était mon rêve. Il réalise son rêve. En fait, il monte sa brasserie de bière. En fait, toute pourrie. Et voilà, il est content. Et en fait. Donc il mène cette vie avec Rosario Dawson et en fait avant d'avoir cette vie avec Rosario Dawson, il a une ex que je vous la montre en photo, Catherine Heigl en fait, qui est super vénère, on le voit, elle a un œil acéré. Et elle est super vénère pourquoi? Parce que Rosario Dawson lui a volé son mec. Et en fait donc le pitch de l'histoire c'est que
est-ce qu'il est plus ou moins sexy que Didier Bourdon?
il est alors là pour le coup, il est plutôt sexy, c'est pour ça que le truc de Didier Bourdon est clairement plus scandaleux à d'autres égards, mais là du coup donc le pitch c'est que voilà, Catherine Heigl qui est la blonde républicaine, tu vois, elle est cavalière, en plus elle fait du cheval, donc ça lui donne un côté un petit peu pénible, elle fait du cheval et elle est super vénère, elle est riche aussi, tu sais, c'est une meuf qui tu sais, ça arrive souvent maintenant dans ces films où t'as des meufs, tu sais pas d'où elles sortent, mais elles vivent dans des maisons seules et énormes, des maisons de stars un peu. Donc elle va tout faire pour reprendre son mec. Elle est super énervée et c'est assez marrant parce que ce film du coup, c'est un espèce de thriller qui se monte, qui c'est n'importe quoi en fait. C'est genre par exemple tu vas voir des scènes comme quoi Catherine Heigl dans une soirée, elle va piquer le portable de Rosario Dawson pour le hacker chez elle avec une application un petit peu à dormir debout du style je hack le téléphone de la meuf de mon ex, tu vois, genre le code du téléphone.
1,99€ sur le Play Store.
C'est trop ça. C'est le code. En fait, c'est on te fait avaler des trucs du style. Le code pour rentrer dans le téléphone de Rosario Dawson, c'est quoi? C'est sa date d'anniversaire, ok? Donc elle rentre la date d'anniversaire et miraculeusement elle peut rentrer dans le portable de Rosario Dawson pour lui prendre des infos. Et donc voilà. Donc c'est un petit peu ces deux meufs en fait sublimes. Qui se battent pour un mec, un espèce de nobody en fait, dont on connaît jamais la vie, et elles vont se faire des coups de pute pour parce que voilà leur vie.
Et c'est comique ou non, c'est non, c'est la main sur le berceau en fait. C'est...
Non, c'est vraiment ça. Il y a un parti pris de thriller un peu, c'est-à-dire que Rosario Dawson est vraiment victime de Catherine Heigl, qui est la méchante, qui est vraiment la belle femme, mais qui a décidé de récupérer son ex. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a là où il y a vraiment un côté cauchemar féministe sous la républicaine, c'est que tu vas avoir des scènes invraisemblables du style, t'as par exemple là tout le film, tu vas avoir une copine de Rosario Dawson qui est en fait le personnage qui est là pour lui rappeler que elle n'a de vie que avec son mec en fait. C'est-à-dire que chaque fois que Rosario Dawson se sent mal, elle appelle sa copine, elle dit mais attends, mais je me sens mal, tu crois pas que je devrais, elle dit attends chérie, déjà pendant que Rosario Dawson est en train de faire le ménage chez elle super sexy en mini short, elle lui dit OK, get back to work woman, OK, you are a woman, you need to take care of the house, OK. Et donc du coup elle se remet au travail. Après cette même copine,
on dirait la mère dans The Room, tu sais.
Non mais c'est trop ça, c'est exactement ça. Et du coup pareil, pendant un repas en fait, il va y avoir un repas où Rosario Dawson va avec son mec, elle est en train de perdre son mec va peut-être retourner avec son ex. Et donc cette même copine lui dit non mais attends, je crois que la seule solution ça serait du sexe malade dans les toilettes. Et du coup Rosario Dawson va dans les toilettes et attrape son mec en mode 50 Shades of Grey, tu vois. Et c'est scandaleux, c'est-à-dire
elle a eu l'alarme pipe, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que Catherine Heigl et Rosario Dawson, encore une fois, qui sont vraiment des superbes filles, leur seule solution pour récupérer leur mec, c'est devenir des animaux sexuels en fait, tu vois. Et c'est-à-dire que c'est la seule réponse, c'est de donner des grandes scènes de sexe. Tu vas voir des trucs trop marrants où là t'as carrément la mère de The Room, qui est la mère de Catherine Heigl dans le film, qui va discuter avec sa fille et va lui dire ah, tu devrais astiquer ton argenterie, ça brille pas assez, tu sais. C'est vraiment des répliques de riches, tu vois. C'est-à-dire c'est assez scandaleux. Et tu vas avoir des scènes où voilà, la petite fille de Catherine Heigl, quand elle est avec sa grand-mère, en fait, elle l'a fait défiler en talons aiguilles. Tu sais, c'est que de l'antiféminisme trumpien sournois en fait. Donc c'est assez drôle et c'est assez nanardesque pour en profiter un samedi soir entre potes. Pour tu sais, c'est un petit peu quand on avait regardé Knock Knock avec Keanu Reeves, c'est le film pendant lequel tu peux parler par-dessus et tu vas quand même passer un bon moment en fait. C'est pour ça que c'est assez cool. Donc c'est un film que je recommande en soirée nanardesque du samedi soir.
D'accord. Donc ta note de nanar, c'est quoi ?
Bah, est-ce qu'il y a une échelle frite de nana ou pas ou,
Échelle frite.
Je donnerais trois frites, tu vois.
McFlurry.
L'échelle McFlurry, donc je donnerais trois McFlurry pour ce film. Et je suis allé voir aussi, ce matin, Le Crime de l'Orient Express, le nouveau film de Kenneth Branagh avec Johnny Depp et une flopée de un casting un petit peu 5 étoiles, que j'ai trouvé relativement sympathique. Ça reprend le livre culte de Agatha Christie hein, que tout le monde connaît évidemment. Alors du coup, c'est à noter quand même que c'est appréciable si on ne connaît pas le dénouement. C'est-à-dire que si on va voir ce film en connaissant déjà l'histoire, ça vaut pas le coup parce que il l'amène pas assez dans la mise en scène et dans l'exploration des personnages. Il l'amène pas assez pour pouvoir donner un regard nouveau.
Ça reste très classique en fait.
C'est très classique, c'est très téléfilm en fait. C'est pour ça que ça fait très téléfilm de luxe parce que voilà, il y a beaucoup d'argent, ça transpire le fric. C'est très stéréotypé au début. Le film démarre à Istanbul, dans un Istanbul un petit peu à la Aladdin où t'as des petits garçons qui courent avec des œufs au milieu des marchés pour aller amener l'œuf parfait à Hercule Poirot, tu sais, parce qu'il mange son œuf parfait et il faut du coup envoyer un petit garçon pour traverser la ville pour aller chercher. T'as après Hercule Poirot qui va dans les marchés à Istanbul et qui serre la main au boulanger, tu sais, dans une esthétique un petit peu comme une pub de Mastercard, tu sais, où t'as le mec, il est dans un souk, tu sais, et il dit il y a des choses qui n'ont pas de prix, tu sais, comme le oui, sourire oui, du boulanger, mais pour le reste il y a Mastercard. Et c'est vraiment ça, t'as vraiment l'impression d'être dans une pub d'agence touristique, oui, donc, en fait.
Zéro inventivité, quoi.
Non, mais c'est ça, quoi. Et zéro inventivité.
De mise en scène, en tout cas. Est-ce que les acteurs sont bons? Enfin, je veux dire, est-ce que du coup le fric a raison de passer dans ces acteurs qui sont des A-list quand même? Parce que il y a Johnny Depp, mais il y a pas que lui. Je sais qu'il y a Josh Gad.
Johnny Depp, là où c'est trop dommage, c'est que Johnny Depp, il faut quand même lui reconnaître qu'il a quand même ce charisme de star qui fait que quand il arrive un petit peu bien habillé, années 30, il est hyper crédible, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment une classe et un charisme qui fait que tout ce qui va sortir de sa bouche, c'est à peu près cool. Mais c'est le personnage qui est le moins utilisé du film, à tel point que je me dis que ça aurait été peut-être super de le mettre lui comme Hercule Poirot, parce qu'il aurait peut-être pu amener quelque chose au personnage, parce que ceci dit, Kenneth Branagh, j'ai lu des critiques où il disait qu'il amenait des trucs au personnage, mais enfin, moi, je vois pas ce qu'il amène. mais il y a clairement, par exemple, tu vois, il y a Penelope Cruz qui
une moustache.
Deux minutes.
Attends, juste, je voulais dire à ce propos-là. Quand tu regardes l'affiche du Crime de l'Orient Express, c'est assez génial parce que donc tout le monde a la moustache, mais Kenneth Branagh a la plus grosse moustache et t'as l'impression que les autres regardent la moustache de Kenneth Branagh et sont jaloux. Je pense qu'il y a quelque chose de très freudien dans tout ça.
C'est assez juste en fait parce que quand tu regardes le film, c'est un
moustache numérique. Hein.
C'est un film de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh. Il y a vraiment, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il voulait montrer quelque chose au monde avec ce film, et c'est pas ouf en fait, tu vois.
Il voulait montrer sa grosse moustache. Ouais. Voilà ce qu'il voulait.
Il y a vraiment une fixation sur la moustache parce que ça c'est un des seuls trucs drôles du film, c'est que le soir il dort avec un masque à moustache en fait. Tu sais, il dort avec un masque à moustache.
Ah,
pas la plisser. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Mais là où c'est vraiment un gâchis de fric, c'est que voilà, t'as Penelope Cruz qui va jouer deux minutes, rien du tout. Il y a Daisy Ridley aussi qui fait un petit peu la Keira Knightley dans un film de Jane Austen, quoi. Et il y a Judith Dench aussi. Willem Dafoe. Oui, Michel Pfeiffer est pas mal. Par contre, il y a Willem Dafoe. C'est le téléfilm de luxe du dimanche après-midi au coin du feu, mais c'est
ouais.
Après objectivement ça reste un moment sympa si on ne connaît pas l'histoire. Si on connaît pas l'histoire, tu vas voir un film sympa. Voilà, un bon ouais, bon petit divertissement du dimanche après-midi, quoi.
Après, j'imagine que oui, on est de toute façon amené à voir des remakes comme ça arriver pour que la nouvelle génération voit ce que c'est. Mais c'est vrai que d'habitude, quand il y a des remakes, il y a toujours un twist de plus par rapport à l'ancienne version. Là, c'est vrai que si tu me dis que c'est juste l'Agatha Christie classique, c'est
encore une fois, moi, je n'avais ni lu ni vu le Crime de l'Orient Express, donc j'étais vierge, tu vois, donc je peux pas te dire ce que ça, s'il y avait des trucs en plus. Mais c'est clair, si c'est à peu près la même chose, il y a beaucoup de gens qui vont être clairement très déçus du déplacement.
PJ, de ton côté.
Coco uniquement, mais vous en avez déjà parlé.
Ouais, t'as un truc à dire rapidement sur Coco, peut-être?
Non, c'était beaucoup mieux que Star Wars 7, c'était très très bien. Un de mes films préférés de l'année, je pense. Voilà.
D'accord. Ok, donc gros niveau. Mm. Moi, rien de spécial, j'ai commencé une série que j'avais dans les tuyaux depuis pas mal de temps qui s'appelle Manhunt Unabomber. C'est une série de Discovery Channel avec Sam Worthington et Paul Bettany.
Juste, je veux t'interrompre ici. Donc, t'as eu du temps pour commencer une série télé.
Ouais.
Et c'était pas Twin Peaks. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Je ne commence pas. Je n'ai pas à commencer Twin Peaks. Je dois re-regarder Twin Peaks. Donc, c'est toujours un peu difficile de re-regarder un truc, tu vois. Moi, je suis dans la novelty. Moi, je veux tout de suite faire quelque chose de nouveau. Et je suis en plein milieu et c'est très bien. C'est donc, on retrace en fait l'histoire vraie d'un profileur dans les années 90 pour retrouver ce terroriste qui envoyait des colis piégés à des dizaines de personnes depuis la fin des années 70. Et donc, il a éludé les forces de police américaines pendant plus de 20 ans. Et comment il a créé une nouvelle discipline qui est la linguistique légale, c'est-à-dire en gros comment au final te retrouver grâce à ta façon de parler, et du coup il y a une réflexion sur le langage et etc. qui est plutôt pas mal du tout. Les acteurs sont très bons et il y a des petits côtés Mindhunter qui sont très sympas, donc je recommanderais chaudement cette série, et Paul Bettany est excellent. Et puis également, si comme moi, vous avez des petites tendances de sociopathie, vous allez totalement vous reconnaître dans le Unabomber, dans son manifeste et sa façon de voir le monde. Vraiment, vous allez voir. c'est tout ce que j'ai vu récemment, pas d'autres films. Donc, je pense qu'on peut, clore l'épisode Star Wars et se dire à dans 2 ans.
un an, on parlera quand même du film de
Solo
de l'année prochaine.
Ah, c'est Solo, oui, du coup, sûr. L'année prochaine, c'est ça qui sort en...
C'est Solo, ouais. Mais je considère pas que les spin-offs ce soient des vrais Star Wars quand même, tu vois. Je trouve que le canon, la franchise est normalement sur les numérotés, tu vois.
Mais tu vois, il y a quelque chose qui me chiffonne, parce que là, tu vois, dans le rythme de sortie des Star Wars, clairement, ils ont décidé de pas en faire autant que Marvel, dans l'idée que Star Wars c'était un peu leur franchise
qualitatif.
Ouais. Tu vois, un peu comme ils faisaient avec leurs dessins animés, finalement, où à une époque, c'était, ils arrivent à Noël, ils arrivent une fois à Noël, on organise un petit peu la rareté, on essaie de mettre le paquet sur la qualité pour que en fait ce soit l'argument de vente numéro 1 de nos films. Bon, la qualité des dessins animés Disney a commencé à baisser dans les années 2000, à partir du moment où ils en ont fait beaucoup plus que ça d'ailleurs, durant une certaine période. Donc là, ils essaient d'appliquer cette logique là et j'ai envie de dire, ça sert à quoi d'appliquer cette logique là si tu fais des films de merde, quoi.
Je pense que c'est pour un truc marketing, pour que tu te retrouves. C'est décembre tous les 2 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Genre comme ton rayon un peu dans le supermarché. De toute façon, ça va s'accélérer, c'est sûr que ça va s'accélérer. Parce que là, on est en train de dire ça pour cette trilogie là. Mais dès qu'il va falloir faire le 10, 11, 12, ça va être tous les ans. Ça ne sera pas du tout tous les 2 ans.
C'est déjà remboursé.
Ouais, je pense vraiment qu'ils vont se limiter à un film Star Wars par an. Hein. Je pense que c'est leur stratégie. Ouais,
je pense pour l'instant, mais
pour
jusqu'au 9.
Inonder le...
Jusqu'au 9, ça va être ça. Mais à partir du 9, ils vont commencer à dire oui, bah, finalement, on a un second spin-off, on a ceci, cela. C'est
alors, sûr. Rian Johnson confirme qu'il sera sur l'autre trilogie 10, 11, 12 et il garantit, alors je sais pas dans quelle mesure on peut croire si c'est vrai ou pas, mais il garantit une histoire complètement nouvelle. Donc, okay. Ça fait combien
de temps que tu as parlé d'étoiles de la mort et de trucs comme ça?
3 ans.
J'espère sincèrement, du fond de mon cœur, qu'il va se faire virer de cette trilogie et qu'il va refaire des bons films.
Voilà,
c'est ça. C'est pas faux ce que tu dis, Arnaud, parce que là, s'engager dans une autre trilogie, je veux dire, il va se Michael Bayiser. Tu vois,
il va faire que ça.
Je suis isolé, si tu sors pas un petit peu de ton truc pour faire autre chose, on va se retrouver avec justement des Star Wars qui ont même pas d'inventivité dans la mise en scène. Donc,
là, niveau box-office, est-ce qu'on peut dire que là, ils ont remboursé les 4 milliards ou pas tout à fait?
Je sais pas.
Ah, mais avec le merchandising et tout ça. Oui.
Entre épisode 7, Rogue One et épisode 8, ils vont 4 milliards à l'aise.
Oui.
Franchement, sur le.
Sans doute, mais.
Après, ils ont fait
mais,
des prêts.
Pour l'amortissement, il faut aussi compter le coût de chaque film et le coût marketing de chaque film aussi.
Ah, oui,
donc,
oui,
je
oui,
sais
oui,
pas
oui,
où ils en
vrai.
Sont. En
oui,
fait.
Et il faut aussi compter, par contre, que. Enfin, encore une fois, je sais pas quelle est leur part dans le merchandising, mais clairement, en un Noël, je pense. Noël 17, ils ont tout fait, hein, je pense.
PJ, il a acheté 12 porgs pour l'instant.
Je pense qu'ils vont rentabiliser aussi l'achat parce qu'ils vont faire des Indiana Jones, j'imagine, aussi oui. À un moment donné. Quoi.
Et puis surtout, du coup, ils ont l'exploitation de ça dès que ça passe à la télé et compagnie. Donc, en gros, toute la thune qui passe par Lucasfilm maintenant, c'est dirigé direct vers les poches de Mickey. Donc, voilà.
Et puis, comme ils veulent faire un service streaming pour concurrencer Netflix, on peut imaginer qu'il va y avoir les Star Wars à voir exclusivement sur leur service de streaming et
Tout comme ils vont retirer toutes les séries Marvel de Netflix pour les réserver simplement à leur plateforme de streaming. Et puis, on arrivera enfin, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Parks and Recreation où il y a Patton Oswalt qui joue un geek un peu fou, qui parle au conseil municipal de la ville pour dire « Oui, peut-être que bientôt, d'ailleurs, Disney rachètera les droits de Star Wars. » Et du coup, à ce moment-là, on pourra avoir le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, qui va rencontrer Chewbacca et Han Solo, etc. Et du coup, ils vont rencontrer Superman, etc. Et je pense qu'on y arrive.
Ah, mais j'espère qu'ils vont faire des... Je pense qu'ils vont faire des nouveaux Star Wars Holiday Special, quoi.
Ah, ce serait... sur leur plateforme de streaming, probablement, parce que c'est vrai que il y a une Arlésienne qui était la série télévisée live action de Star Wars.
Et où ils avaient écrit les scénarios de la saison 1, apparemment.
Soi-disant. Mais là, clairement, si maintenant on a une plateforme télévisée de Disney, c'est sûr que ce sera exploité. Ils vont clairement faire une série Star Wars.
Ah putain, c'est génial, on va se régaler.
Je pense que les séries seraient meilleures que... Enfin, moi, je préfère les Clone Wars dessiné par Tartakovsky que les films, quoi. Que les 7 et 8. Bref, si vous avez un avis différent, envoyez-nous un mail à fin-de-séance@gmail.com et on le lira la prochaine fois. On dira à quel point on n'est pas d'accord avec vous. Voilà. Bisous à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre film.
Bisous.
Ciao. Bisous.